Et c'est pas tous les jours qu'on reçoit une personne qui est membre du Sénat. Et je suis tellement content de l'accueillir ce matin. Bernadette Clément, qui est maintenant sénatrice. Madame Clément, bonjour.
Bonjour.
Ça fait un bout de temps qu'on s'était pas parlé.
Oui,
ça faisait longtemps, hein?
Oui. Puis moi, c'est ma première fois ici dans ce studio.
Oui.
Donc, je voulais vraiment être ici en personne.
Oui, parce que je crois que la dernière fois, c'est quand les studios étaient à Cornwall.
Exactement.
Ça a changé un peu, hein?
Ça a changé comme vraiment. C'est cool, c'est moderne, j'aime ça.
Ah oui, hein?
Oui, oui.
Moi, j'adore nos bureaux aussi, nos studios avec les fenêtres et tout ça. Je trouve que ça...
Oui.
Les fenêtres, là, ça fait toute une différence où on était avant, longtemps passé. Ça fait quand même... ça fait 10 ans. Où on était à Cornwall, il n'y avait aucune fenêtre.
Oh.
Zéro. Nada. Aucune fenêtre. Donc, évidemment, ça fait toute une différence. On voulait vous recevoir aujourd'hui, Mme Clément, parce que... On est en plein mois de l'histoire des Noirs et je sais évidemment que c'est un sujet évidemment que tu portes évidemment très très à cœur. Avant de aller dans ce sujet-là, je suis un peu curieux au niveau de votre parcours,
mm-hmm.
au niveau du parcours parce que vous en avez fait du chemin en termes de parcours professionnel, en commençant par le côté légal, côté très impliqué aussi au niveau communautaire. Vous avez été énormément impliqué dans la région de Cornwall, SDG, dans toutes sortes de causes, d'organismes à but non lucratif, de trucs aussi au niveau de la francophonie, parce qu'évidemment, vous êtes francophone. Et par la suite, la politique... que ce soit quand vous vous êtes présenté pour le Parti libéral au niveau fédéral ou lors de votre passage à la mairie de Cornwall.
Mm-hmm.
Donc, vous avez touché quand même à beaucoup de trucs. Puis, je suis curieux un peu d'en apprendre sur, justement, votre parcours.
Ouais.
Qu'est-ce qui vous a poussé vraiment à...
Hey, je me sens
à
vieille,
faire toutes
là.
Ces choses-là.
Je me sens vieille, là.
Oui, mais il y en a nommé beaucoup, là. Il me semble qu'il n'arrêtait plus.
C'est long!
Ben, moi, je vous connais.
Mais c'est un beau parcours.
Moi, je suis arrivé, je vous ai connu en 2015, donc ça fait 10 ans.
Oui.
Et pas mal tout ce que je viens de dire, c'est ce que oui. vous avez accompli dans les 10 dernières années. Je
fais juste une réduction. Est-ce que
non.
tu dors?
Non, en fait... Pour moi, puis je vais parler de Cornwall, parce que Cornwall, c'est vraiment là où j'ai fait la plupart de mon parcours professionnel. Mais moi, je suis née à Montréal d'un père de Trinidad et Tobago, d'une mère franco-manitobaine, un couple super courageux, un homme noir, anglophone, une femme blanche, francophone, qui ont été... pas mal différents dans leur couple dans les années 60-70. J'ai été élevée là avant d'arriver à Ottawa pour faire mes études en droit. Donc, j'arrive à Ottawa et puis là, je commence un cheminement vers devenir franco-ontarienne.
Oui.
Mais c'est quand j'ai choisi Cornwall que j'ai vraiment compris que là, j'avais fait un choix qui allait... vraiment me donner un sens d'appartenance. Un sens d'appartenance au niveau de mon identité comme femme noire, mais aussi comme franco-ontarienne. Et ça, ce choix de franco-ontarienne, mais ça, c'était par amour. La communauté francophone à Cornwall était parmi les premiers là, à m'accueillir. Donc, oui, j'ai fait beaucoup de bénévolat auprès de la communauté francophone, dont la radio communautaire. Et c'est là que je suis devenue vraiment avocate d'aide juridique. J'ai appris mon métier à Cornwall. J'ai appris à faire du bénévolat à Cornwall. Et j'ai commencé une carrière politique municipale, d'abord. Oui. Alors, c'est surtout ça qui m'a amenée dans un autre monde politique. Plutôt que de faire du cas par cas comme avocate... Je pratique encore, by the way, à temps partiel à la clinique d'aide juridique.
Ah oui, hein?
Oui. En tant que sénateur, on a le droit de faire un peu de travail en autant qu'il n'y a pas de conflit.
Okay.
Mais moi, je continue à pratiquer, à faire du mentorat à la clinique d'aide juridique. Alors,
wow, oui.
Ça me tient vraiment proche de la communauté à Cornwall. Puis c'est Cornwall, c'est toujours central dans tout mon cheminement.
Oui, définitivement. les défis, justement, parce que, bon, vos parents, évidemment, avaient, disons, n'étaient pas un couple typique de ces années-là, on comprend. Puis c'était beaucoup plus difficile dans ce temps-là. Vous êtes arrivé aussi à Cornwall, qui n'était quand même pas non plus une communauté super multiculturelle.
C'est vrai.
Il y a eu un long conflit à Cornwall, d'ailleurs. C'est documenté, on le sait, entre les francophones et les anglophones.
Oui.
Bon, ça a changé, évidemment, avec les années. Là, on a appris à mieux vivre ensemble. Mais Cornwall n'était pas un endroit très multiculturel. Ça fait pas si longtemps que ça. D'ailleurs, Cornwall, qui est maintenant une communauté francophone accueillante.
Oui, officiellement.
Officiellement, oui. De même que Hawkesbury, d'ailleurs, dans la région aussi.
Oui.
Mais ça fait pas si longtemps que ça. Donc, votre accueil, comment était-il?
Écoutez, les francophones, bon, c'était... Salut! on est content de vous voir. Mais en fait... Les familles noires, il n'y en avait pas beaucoup. Donc, si on se croisait dans la rue, on se faisait des allos. On ne se connaissait pas, mais on était tellement pas nombreux. Puis, je vais citer la famille Maniga, une famille d'origine haïtienne. Ça faisait longtemps qu'ils étaient à Cornwall. Et eux, ils m'ont invité chez eux, comme ça. Là. Venez chez nous, on se rassemble.
T'es arrivé, puis on se dit, viens-t'en.
Viens-t'en, on va souper ensemble. Puis, c'est devenu vraiment une amitié qui dure encore à ce jour. Donc, oui, c'est vrai. C'était pour moi, je me sentais comme j'étais souvent la seule, la première. Mais en fait, ça a toujours été dans ma carrière, la première. Donc, quand Cornwall m'a élue mairesse, j'étais la première mairesse de la ville de Cornwall. Puis Cornwall, c'est pas jeune, là.
Non.
Cornwall, c'est plus vieux qu'Ottawa, là.
Oui.
Bon. Alors, Cornwall ont élu leur première femme mairesse. Mais en Ontario, je suis devenue la première femme noire mairesse en Ontario. Puis c'est pas Ottawa qui a fait ça. C'est pas Toronto qui a fait ça. C'est Cornwall.
Ici, dans notre cour.
Notre cour. Oui. Alors... Pour moi, l'Est de l'Ontario, je suis sénatrice pour l'Ontario, là, on se comprend. Mais l'Est de l'Ontario en particulier, ben, c'est mon chez-moi. C'est ce qui me motive. Encore une fois, c'est au centre, au cœur du travail que je fais en tant que sénatrice.
Au niveau des défis, j'irais peut-être plus des... Ben, en fait, je vais le faire de l'autre sens. Les avancées qu'il y a eu, disons, dans le grand public au niveau, justement, de peut-être certaines pratiques discriminatoires avaient, ben on le sait, là, ça a eu lieu. Et les avancées qui ont été faites depuis les dernières années, est-ce qu'on s'en va dans un bon chemin?
Définitivement. Je veux dire, le fait que, je vais parler de Cornwall, mais Cornwall, c'est un exemple qui est reflété un peu partout, là. On a une diversité, donc ça nous rend plus forts, parce qu'on est à l'aise avec la complexité. À Cornwall, anglais, français, ça a toujours été quelque chose qu'on a géré. C'était pas toujours facile.
Non.
Mais ça fait qu'on a des compétences au niveau de la gestion des questions compliquées.
Ouais.
Alors,
c'est vrai.
Et donc, le fait qu'on est vraiment maintenant communauté accueillante officiellement, qu'on a une diversité quand même assez récente dans les 10 dernières années, ça fait encore une fois quelque chose qui nous donne une certaine compétence au niveau de gérer les projets de société, de communauté. Donc ça, c'est beau. Je trouve qu'il faut qu'on fasse attention de ne pas prendre des pas par en arrière.
Oui.
Alors, c'est ça, la chose. Il y a toutes sortes d'influences dans les médias sociaux, chez nos voisins au sud. Faut qu'on comprenne que la diversité, l'accueil, ça se travaille. C'est un travail qui doit continuer. Cette année, c'est le 30e anniversaire du mois de l'histoire des Noirs. Alors, Jean Augustine, la première femme noire élue députée à la Chambre des communes, c'est elle qui a fait la motion. Et donc, on est en période de réflexion, on regarde en arrière, les 30 ans en arrière, puis on voit que c'est vrai que les personnes noires au Canada ont pris, je dirais, plus de place. On est fiers de nos contributions, on en parle avec tout le monde. Mais moi, je rencontre encore des parents qui sont en train d'élever des enfants qui se font appeler des noms dans les cours d'école. ça arrive encore, ça, en 2026. Moi, je l'ai vécu dans les années 70. Petite fille avec ma sœur, me faire appeler des noms. Puis donc, il y a des fois où je me dis, est-ce qu'on a suffisamment avancé? Je dirais qu'on a fait des avances. Moi, je me sens en tant que femme noire canadienne plus fière que jamais. Je prends plus de place. Mais j'ai fait face à des défis. Puis, il faut que j'en parle pour encourager les jeunes à prendre leur place puis en parler ouvertement.
Ma meilleure amie, elle est haïtienne. Et ça fait peut-être quoi, une dizaine d'années où, au niveau du gouvernement fédéral, lorsqu'elle a appliqué au gouvernement fédéral, elle avait un certain poste qui demandait des accès de sécurité et tout ça. Mm-hmm. Et la personne qui lui a posé des questions était très étonnée qu'elle se soit rendue à ce stade-là. Genre de commentaire, « Ah, c'est spécial là, que tu sois, tu sois ce poste-là. » Ça fait pas si longtemps, là.
Non.
Mais...
elle l'a eu, le commentaire.
Mon message, oui. Puis, écoute, je suis très sensible à cette cause-là, évidemment, à cause de ça, évidemment. Non? Mais... des fois, les gens aussi font des commentaires sans se rendre compte de ce qu'ils viennent de dire. C'est pas toujours malicieux, mais notamment, t'es comme nous autres.
Oui.
Ou, je me rappellerai toujours parce qu'on a fait le secondaire ensemble, tu vas tomber en bas de ta chaise, OK? Assis-toi, puis tiens-toi, OK? Professeur de mathématiques, OK? Professeur de mathématiques au secondaire, je vous le jure. Il a dit ça et j'en suis encore traumatisé d'ailleurs. On était dans la même classe. Il lui a dit, t'es vraiment belle pour une noire.
Ouais.
Elle avait 14 ans, on avait 14-15 ans.
Ouais.
Le prof de maths, premier cours, septembre.
Mm-hmm. Peu importe, un prof de maths ne devrait pas dire ça.
Ben, premièrement, là, c'était
comme
très étrange.
Peu importe,
mais vous comprenez
belle,
un
ne
peu
devrait pas
plusieurs niveaux de problèmes. <là. rire>
Mais vous comprenez un peu, vous comprenez un peu le point ici, c'est que...
Hey, moi, je l'ai
faut être conscient de ce qu'on...
Ouais.
Je l'ai eu ce commentaire-là. Je l'ai eu, ce commentaire-là. C'est pas... ouais. C'est pas mal commun. Puis quand on se parle entre Canadiens, Canadiennes noires, là, on a souvent des histoires semblables,
ouais,
comme
hein.
ça. Moi, je me fais encore aujourd'hui... Tu viens d'où? Ou t'es de où, toi? Mais moi, je suis née à Montréal. Donc, tu sais, quand je réponds Montréal, ils disent, ouais, mais t'es où vraiment? Là? Tu viens d'où vraiment? Et donc... C'est pas nécessairement mal intentionné, mais
non.
Ça envoie un message qu'on est différent et qu'on doit expliquer certaines choses concernant notre identité raciale. Quand j'avais gagné une bourse pendant mes années à l'Université d'Ottawa, puis un gars, un collègue qui avait pas gagné cette bourse-là, il m'a dit... Ah, oh, tu l'as gagné à cause d'un quota. Il fallait absolument avoir
pas parce
des femmes noires. Exactement.
Compétente, là.
Puis le pire de cette histoire-là, c'est que moi, je l'ai cru, ce cas-là. Moi, j'ai dit, ah, ben,
ça doit être
vrai.
Oh.
Donc, c'est pour ça qu'il faut en parler de ces choses-là, pour que les plus jeunes comprennent qu'il faut qu'ils questionnent ce genre d'intervention avec les gens, ce genre d'interaction avec les gens, pour pas que ça les affecte dans leur fierté, dans leur confiance.
Définitivement.
Ouais.
Puis que ça mette pas non plus des bâtons dans leur parcours de vie, dans leur
Exactement.
Parcours professionnel, parce qu'ils se diminuent.
Exactement.
Puis, sans aller à la défense de ces gens qui disent ça, effectivement, des fois, les gens réalisent pas ce qu'ils sont en train de dire. Puis je pense que c'est la conversation qu'on a en ce moment, elle est importante en ce sens où prenez le temps de réfléchir à ce que vous dites des fois. Parce que des fois, vous pensez peut-être que vos mots sont...
C'est banal. Pour l'autre personne, c'est beaucoup.
Ça va venir mettre un lourd poids sur les épaules de quelqu'un d'autre.
Oui.
Et ça, peu importe la raison pour laquelle vous dites certains mots. Là.
Oui.
Ça peut être toutes sortes d'affaires. Là. Ça peut être au niveau de l'orientation, ça peut être au niveau racial, ça peut être au niveau... Peu importe de ce que tu portes, mais faites attention à ce que vous dites.
Oui. Ouais.
Des fois, les gens ne réalisent pas à quel point ça peut venir marquer quelqu'un.
Non. Ils ne veulent pas être méchants nécessairement. Puis même les enfants dans les cours d'école, ça aussi, c'est comme, c'est quoi ça? Est-ce que c'est fait par méchanceté? Est-ce que c'est fait parce qu'ils entendent des choses chez eux? Mais faut juste qu'on soit plus conscient. Nous, les personnes noires, les communautés racialisées, on a besoin d'alliés. Puis on a besoin de gens qui vont comprendre, qui vont être nos amis, qui vont cheminer avec nous. Donc, le but du mois de l'histoire des Noirs, un des buts, c'est justement d'avoir ce genre de conversation tout haut, tout fort, devant tout le monde,
oui.
Pour justement conscientiser, pour dire aux gens, on va pas dire que vous êtes mal intentionnés, pas toujours, mais on veut qu'on chemine ensemble là, de façon respectueuse.
Dans la bonne direction,
ouais.
Évidemment.
Ouais.
Heureusement, on a quand même fait un certain bout de chemin. Donc, au moins, ça avance. Et effectivement, avec Cornwall et Hawkesbury dans notre coin, qui sont deux endroits de communauté francophone accueillante, ben, je pense que c'est encore plus important d'avoir la discussion qu'on a eue ce matin, Mme Clément, parce que inévitablement, on comprend qu'il y a de plus en plus de nouveaux arrivants, de familles et tout ça, qui aménagent dans ces coins-là, évidemment, en raison de ce programme-là. Donc, je pense que la conversation était hautement pertinente ce matin. En terminant, on est avec la sénatrice Bernadette Clément. Vous avez un peu de pain sur la planche au Sénat?
Oui.
Vous ne dormez pas, là.
Oui, non, le contexte politique est...
actuel
est compliqué.
Un peu, hein?
Oui, il y a de la tension un peu partout. Donc, oui, c'est clair qu'à Ottawa, on travaille fort, mais c'est compliqué aussi.
C'est compliqué, hein, oui.
Ouais.
Avec les bouleversements de l'autre côté, puis
ouais.
Certaines tensions géopolitiques et...
Il y a bien des choses.
Économiques.
Il y a bien des choses.
Et est-ce que c'est moi ou le Sénat, et corrigez-moi, là, mais le Sénat, c'est quand même un endroit où vous êtes justement là pour, mettons, réfléchir plus longuement de certaines conséquences à long terme de politique. Politique qu'on essaie d'adopter en ce moment à une vitesse grand V parce qu'il faut bouger vite. Est-ce que c'est moi ou c'est la difficulté peut être là aussi?
Oui, non,
On vous pousse.
C'est ça le problème. Puis nous, notre raison d'être, là, c'est de vraiment porter un deuxième regard plus soutenu, plus sage, plus calme. Et donc, se sentir poussé, c'est comme frustrant. Moi, je siège comme indépendante aussi. Je suis une sénatrice indépendante.
Oui.
Donc, je ne suis pas plus membre d'un parti politique. Alors, je veux vraiment refléter l'Est de l'Ontario, la francophonie, le fait que je suis une femme noire, une avocate, une ancienne mairesse. Toutes ces choses-là qui ont fait que j'ai été nommée au Sénat pour refléter.
Qui viennent têter le regard que tu as, oui.
Je voudrais avoir le temps d'utiliser toutes ces capacités pour bien réviser les lois. Et on se sent, ouais, poussé. En même temps, faut vraiment toujours dire les élus, c'est eux qui ont le mot final parce que c'est eux qui ont été élus par le peuple. Donc, nous, on n'est pas là pour mettre le bâton dans les roues. On est là vraiment pour améliorer et faire réfléchir les élus pour qu'ils comprennent que les lois doivent bien refléter la société telle qu'elle est.
Puis éviter des mesures qui seraient peut-être électoralistes et d'y aller avec quelque chose qui, justement, les faire réfléchir des fois, des projets de loi, peut-être que ça règle un problème dans l'immédiat, mais tu vas en créer trois autres dans le futur.
Justement.
Sans t'en rendre compte nécessairement.
Justement. Par manque de consultation, d'inclusion, parce qu'on va vite, parce qu'on a peur de ce qui se passe dans le monde.
Oui.
Mais je pense que souvent, aller vite, c'est pas nécessairement la solution. Donc, c'est ça. Donc, il y a une tension qui est naturelle.
exacerbée par nos voisins
et tout
ce qui se passe ailleurs. Madame Clément, un grand plaisir de vous avoir reçue ce matin. Vous êtes toujours la bienvenue ici.
Merci.
C'est Bernadette Clément qui est sénatrice et qui venait nous jaser notamment en raison du mois de l'histoire des Noirs dans les